très flacat fudge, l'émission juive décoloniale et diasporiste.
Oui, parce qu'on est rare. Donc, si vous nous écoutez, vous avez de la chance. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 4e épisode. Je ne vous cache pas que d'entreprendre cet épisode n'était pas chose aisée, du fait de ma sidération face à l'escalade vitesse VV', de la folie fasciste et génocidaire partout dans le monde. Que ce soit la fascisation aux USA, en Europe, y compris la Belgique évidemment, le génocide et nettoyage ethnique en Palestine, au Congo, au Soudan, au Kurdistan. Je suis terrifiée, sidérée, mais aussi révoltée, et cela plus que jamais. Mais par où commencer? Comment lutter face à ce trou noir gourmand? Ici, avec ce podcast, le but est d'avoir un impact sur l'opinion publique en éduquant quant à l'antisémitisme, le sionisme et la culture juive. Mais est-ce assez? Est-ce suffisant comme cible en des temps pareils? Est-ce même efficace? Est-ce que je ne prêche pas déjà pour des convaincus ou même dans un désert, comme on dit? Tels sont mes questionnements. En attendant, je vous invite à vous instruire encore et toujours, ici et ailleurs. Ici, dans cette émission, nous sommes non seulement solidaires de la libération du peuple palestinien, mais aussi des Kurdes et des Congolais face à l'impérialisme colonial. C'est pourquoi je vous invite à écouter l'épisode du 5 février de mes collègues sur Radio Air Libre de l'émission Tranche d'Anar, où vous pourrez entendre les dernières nouvelles du Rojava suite aux événements en Syrie. N'hésitez pas à suivre les différentes pages sur les réseaux sociaux du Rojava et Kurdistan, comme les pages Kurdistan au féminin, Kurdistani People, Rojava Information Center, et évidemment le réseau Cerildan Belgique. La lutte des Kurdes, notamment au travers du PKK, qui est une organisation politique kurde militante et un mouvement armé de guérilla, est accusée de terrorisme. Accusations semblables à celles qui ont pu être faites envers la lutte de libération palestinienne contre la colonisation sioniste. D'ailleurs, le Rojava, entité autonome démocratique au sein du Kurdistan, située au nord-est de la Syrie, est victime, depuis la chute de Bachar al-Assad, d'attaques encore plus incessantes qu'avant de la part de la Turquie et d'Israël. Nombreuses vies humaines civiles sont touchées quasi quotidiennement, mais aussi des infrastructures vitales et même un aéroport. Quant au Congo, pour être au courant de toutes les actions en Belgique, je vous invite à suivre la page suivante sur Internet, freecongo.be. Et pour être au courant de ce qui se passe là-bas, suivez la page teamcongo.rdc. Thank you. depuis la Belgique, et même si cela a mobilisé peu d'impact sur les cibles en question, le bâtiment du KKL Belgique a récemment été redécoré à l'aide de collages et de graffitis. Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux ou que vous êtes passé du côté de la porte de Namur à Bruxelles ces deux dernières semaines, vous êtes peut-être déjà au courant de cette action. Une action que je nommerai de sensibilisation et dénonciation du KKL par une bande de juifs et juives bien vénères envers cet organisme de greenwashing agissant en faveur de l'établissement du projet sioniste. KKL, acronyme pour Keyen Keremet Le Israël, en français Fonds National Juif. Tout juif et juive dans le monde connaît cette organisation. Et la plupart ont un arbre planté en leur nom par le KKL en terre de Palestine. Le KKL aussi nous procure nos bougies de Chanouka au magasin Kacher, évidemment made in Israël, et nous enjoint régulièrement à faire une donation pour reboiser des terres supposément arides et non peuplées. Le fameux mythe sioniste qui prétend avoir fait un oasis à partir d'un désert. Né de parents non sionistes, il a fallu pourtant que je fasse ma bat mitzvah au CCLJ, Centre culturel laïque juif, un centre sioniste de gauche, pour qu'un arbre soit planté en mon nom en Palestine. Je ne fais donc pas exception à la règle. Créé en 1901, le KKL est donc impliqué depuis 124 ans dans la dépossession de la population palestinienne, cela à travers un processus de greenwashing. Accélérant son activité lors de la Nakba en 1948, le KKL, avec l'accord et la complicité de l'État d'Israël, s'est approprié de nombreuses terres palestiniennes, pourtant résidentielles et agricoles, des villages entiers et des cultures de plantes indigènes, donc détruits et remplacés par des arbres qui n'y poussaient pas naturellement, par des zones protégées de reforestation et des parcs publics. Ce faisant, le KKL a effacé les vestiges et le patrimoine de centaines de communautés palestiniennes, permettant ainsi d'occulter toute trace de leur présence avant 1948. En ligne, on peut lire que dans les revendications collées sur les murs du KKL, il est dénoncé que aujourd'hui encore, le KKL représente un énorme soutien aux colonies israéliennes illégales, violant ainsi le droit international. Et cela, je cite, « en finançant des infrastructures et des travaux publics qui bénéficient directement aux colonies, contribuant alors à la création de faits irréversibles sur le terrain. » Les premières victimes sont ces familles palestiniennes déplacées dans le but de consolider la présence sioniste en Cisjordanie. La première action possible depuis la Belgique serait que l'État belge retire le statut légal de KKL, JNF Belgique, et interdise ses activités qui sont en violation flagrante du droit international. On ne rappellera jamais assez qu'un cessez-le-feu ne suffira jamais. Il faut démanteler les rapports de pouvoir coloniaux. Ici, on fera un retour sur le livre « Contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations ». Je vous présenterai aussi un audio enregistré par Bruxelles Panther lors de leur événement le 9 février. Comme le dit Ouria lors de la présentation publique du livre le 9 février, organisé par Bruxelles Panther, pourquoi ce focus sur l'antisémitisme alors même que notre souci prioritaire devrait être le sort des Palestiniens et Palestiniennes à Gaza et en Cisjordanie. Pour contextualiser l'écriture de ce livre, qui date d'avant même le 7 octobre, l'Angleterre faisait face à une délégitimation du Parti travailliste anglais, notamment au travers des accusations d'antisémitisme envers Corbyn. En France, on parlait de corbynisation du LFI, notamment de Mélenchon, et toute la gauche de fracture. Ensuite, nous avons aussi le cas étrange de l'Allemagne, même au sein de la gauche et des antinationalistes, du soutien à Israël et le projet sioniste, sous prétexte de lutte contre l'antisémitisme. Il se trouve que l'instrumentalisation de l'antisémitisme a servi de prétexte pour justifier la criminalisation, notamment des personnes non blanches, mais aussi des partis de la vraie gauche de rupture qui dénoncent les massacres et l'injustice commis envers les Palestiniens et Palestiniennes. L'antisémitisme, dans sa définition donnée par l'IRA, est instrumentalisé afin de justifier l'islamophobie, arabophobie et racisme d'État et la criminalisation du soutien palestinien, des luttes décoloniales et antisionistes. Un phénomène qu'on retrouve donc en France, en Angleterre et en Allemagne, mais aussi, dans une moindre mesure, en Belgique. Les nouveaux antisémites seraient les Arabes et la gauche, ce qui permet ces pratiques d'innocenter l'Europe chrétienne de droite, pourtant le berceau de l'antisémitisme. Pour rappel, il y a une grosse différence entre le contexte français qui a poussé à la création de ce livre et le contexte belge. C'est l'inclusion de la définition dite opérationnelle de l'antisémitisme et donnée par l'IRA dans le droit national français depuis 2019. La Belgique, pourtant membre de l'IRA, ne se fonde pas sur la définition de l'IRA, mais à sa propre définition juridique en droit pénal belge pour décrire les faits liés à l'antisémitisme. À savoir que la définition donnée par l'IRA, dans ses 11 exemples de démonstrations antisémites, 7 exemples, donc 7 sur 11, incluent Israël et les Israéliens. L'un de ces exemples, et pas des moindres, est le refus du droit à l'autodétermination des Juifs et la caractérisation de l'existence de l'État d'Israël comme étant le fruit d'une entreprise raciste. Un autre critère est celui du traitement inégalitaire qu'on infligerait à Israël en lui demandant d'adopter des comportements qui ne sont ni attendus ni exigés de tout autre État démocratique. Encore un autre, l'établissement de comparaison entre la politique israélienne contemporaine et celle des nazis.
Donc, il va de soi qu'il y a une urgence à clarifier réellement ce qu'est l'antisémitisme. Et de non seulement ça, non seulement de clarifier, mais de dire aussi l'importance qu'a la lutte contre l'antisémitisme à nos yeux. Parce qu'on est aussi accusé de croire, on laisse croire que pour nous, il y aurait des priorités et qu'en fait, on hiérarchise les racismes et que pour nous, il y aurait la négrophobie, l'islamophobie, la homophobie, que finalement, l'antisémitisme, ça ne nous intéresse pas. C'est pas vrai. Quand on est des décoloniaux conséquents, les racismes nous concernent et il n'y a pas un racisme qu'on peut détacher des autres. Par conséquent, oui, l'antisémitisme est pour nous une question aussi importante que les autres racismes, donc on a besoin de dire ces choses-là, on avait besoin de clarifier la manière dont aujourd'hui on instrumentalise l'antisémitisme et dans quel but. Et enfin, dans ce livre, il y a évidemment le fond du fond, reste quand même le fait que nous sommes tous des militants antisionistes et pro-palestiniens. Donc ce qui compte aussi ici, c'est à travers ce prisme que les forces politiques françaises réactionnaires nous imposent, c'est de réaffirmer évidemment notre soutien à la cause palestinienne, notre identité antisioniste et la dénonciation claire et nette de ce qui est en train de se passer, à savoir un génocide et un nettoyage ethnique.
Le début du livre, écrit par Judith Butler, présente la situation de l'instrumentalisation aux USA et comment, malgré que juive, et notamment pour ses positionnements publics et parce que membre de Jewish Voice for Peace, elle a été accusée d'antisémitisme ou de traître. On a aussi Ariel Aïcha Azoulay, juive d'origine palestinienne qui nous relate la Palestine pressionnisme, multiculturelle et multiconfessionnelle, un monde qu'elle appelle juif musulman. Elle parle, et je cite, « de l'effacement du souvenir de l'existence d'un monde juif musulman tout en nourrissant le mythe blanc, impérialiste et colonial d'une prétendue tradition judéo-chrétienne ». Elle rappelle aussi que les nazis et les juifs, suite à la Shoah, ont été exceptionnalisés pour innocenter l'Europe, pourtant le foyer de l'antisémitisme depuis plusieurs siècles. Cette exceptionnalité-là a aussi permis, comme elle dit, de dissiper les similitudes et les continuités de cet événement, en l'occurrence la Shoah, avec les technologies génocidaires utilisées par les autres puissances coloniales européennes et américaines, dont Israël. Ensuite, pour finir, je vais vous parler du magnifique chapitre sur les fameux sionistes de gauche et la notion d'antisionisme égalitariste. Il est intéressant de noter que Maxime Benatouille, dans ce chapitre, ne définit pas les événements du 7 octobre comme un pogrom, disant que c'est servir la propagande sioniste de Netanyahou, relayée par le monde politique, y compris l'extrême droite. Maxime Benatouille dit que ce n'est en tout cas pas un pogrom antisémite, chose que, ici, dans un épisode précédent, nous avons essayé de dire, mais très prudemment. Avec le recul, je prendrai moins de pincettes. Le motif de ces attaques n'était effectivement pas fondamentalement antisémite, il était surtout anticolonial. Et même s'il l'était antisémite, il faut se demander pourquoi et quelle est la cause de cette confusion juif-colon-sioniste. Je vous propose maintenant en audio l'intervention de Simon Hassoun, porte-parole de Tzedek, qui résume très bien ce chapitre écrit par Maxime Benatouille, membre de l'UJFP et de Tzedek en France. Je remercie Bruxelles Panther pour m'avoir autorisé à utiliser cet audio dans cet épisode.
Simon, si tu peux parler de Tzedek et de gauche antiraciste et sioniste, donc sans parler par exemple de nos adversaires de droite, en fait, des problématiques qui se posent parmi nos camarades de gauche et la question du sionisme.
Oui. Peut-être pour parler de Tzedek d'abord. Donc nous, on est né pas longtemps avant octobre 2023, parce qu'on est né en juin 2023, avec cette volonté de créer un peu une maison politique pour les juifs qui se reconnaissent dans la pensée décoloniale et dans la lutte antiraciste et anti-impérialiste. Donc voilà, on est né à ce moment-là. Ça a permis de rassembler des militants qui étaient issus d'organisations diverses ou qui n'étaient pas forcément militants avant ça, d'avoir un espace où militer en tant que juif. Et c'est peut-être une des nuances qui peut nous différencier de nos amis et de nos camarades de l'Union juive française pour la paix, dont un certain nombre de militants historiques de Tzedek viennent, font encore partie de l'UJFP. C'est-à-dire que nous, on a la judéité est vraiment au cœur de notre démarche politique. C'est une des petites différences avec l'UJFP, où la judéité n'est pas forcément au centre de la définition de leur ligne politique. Mais bon, on s'entend très bien, il n'y a aucune rivalité, et en fait, il y a une très forte complémentarité entre nos deux organisations, et on est assez fiers d'avoir pu à deux ouvrir une voie, en fait, un espace politique dans un environnement quand même très hostile et très compliqué, où on peut politiser toutes ces questions et pouvoir en fait réconcilier la judaïté avec l'ensemble en fait des luttes pour l'émancipation et pour l'égalité. Enfin, il y a évidemment aucune contradiction en soi entre ces deux choses là, mais il faut quand même comprendre qu'on est dans des coordonnées politiques qui font tout pour mettre les juifs en dehors des classes populaires, en dehors de ce camp de l'émancipation-là, qui était pour nous vraiment presque vital en fait, de bénéficier de cette maison, de cet espace-là. Et Tzedek a pris évidemment beaucoup d'ampleur depuis le 7 octobre, parce que parce qu'on a été pris en fait dans ce dans, dans les répercussions de ces événements-là en France. Et ça a été quelque chose d'assez vertigineux, la manière dont le 7 octobre est venu percuter la scène politique française. La manière dont ça a libéré des discours racistes, islamophobes, comme la manière dont ça a légitimé des politiques, encore une fois, racistes et islamophobes, que ça nous fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir avoir cet espace-là, et ça marche plutôt bien. Tu me demandes de parler sur ce qu'on appelle les sionistes de gauche, en fait, et qui ont fait aussi parler d'eux depuis le 7 octobre. Bon, la première chose pour peut-être aborder cette question-là, c'est de laisser pour l'instant le sionisme de côté et d'essayer d'interroger qu'est-ce que ça veut dire quand eux disent de gauche. De qui on parle déjà ? On parle de collectif. Il y a le collectif Golem, il y a le collectif des Juifs et Juives révolutionnaires, et il y a le réseau, le RAR, donc c'est le c'est quoi un antiraciste et, voilà. Donc c'est des gens qui reprennent en fait à leur compte le discours du nouvel antisémitisme, toute cette instrumentalisation qu'on connaît, mais à la différence que eux ne se situent pas en dehors du camp de la gauche et de l'émancipation, mais revendiquent se situer à l'intérieur de ce camp-là. Donc c'est des gens qui vont nous dire qu'ils partagent la lutte contre le colonialisme israélien, ils partagent bien sûr la lutte contre le racisme. Ils font partie de la gauche, parfois même de la gauche radicale, et qui développent le discours selon lequel la gauche aurait quand même un problème d'antisémitisme. Donc, pour le dire autrement, il n'y a pas de fumée sans feu. Et si on a une telle instrumentalisation de l'antisémitisme contre la gauche qui vient des milieux conservateurs, réactionnaires ou conservateurs, c'est qu'il y a quelque chose de vrai derrière. Et eux vont effectivement développer un discours autour de cette question-là. Donc, la première question, c'est d'interroger un peu leur rapport à la gauche. Quand on regarde d'où viennent politiquement les principales figures de ces courants-là, ou dans quel parti ils peuvent par ailleurs militer en même temps qu'ils militent à l'intérieur de leur collectif, bon, c'est une gauche qu'on connaît bien, qui se situe plutôt au niveau du Parti Socialiste ou du Parti Écologique, enfin Europe Écologie Les Verts. Donc c'est une gauche qui a déjà renoncé, au moins partiellement, à cet horizon de rupture avec... avec le système qui est adossé au système capitaliste, avec ce monde-là néolibéral. C'est une gauche qui a déjà fait rupture avec cet horizon-là, on va dire, révolutionnaire. Ils ont une lecture qui est très républicaniste des choses. Leur manière de concevoir la lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme, parce qu'eux font la différence entre les deux, est quelque chose finalement de très libéral. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup d'analyses de discours. Il y a une espèce de chasse aux tropes antisémites où ils vont essayer de décortiquer chaque déclaration par exemple de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est quand même la personne qui concentre le plus ces critiques-là. Ils vont essayer d'éplucher chacune de ces déclarations et d'y déceler des messages antisémites cachés. En disant il parle de finances internationales, par exemple. Parler de finances internationales, c'est parler des Juifs d'une manière déguisée. Donc c'est bien la preuve que Jean-Luc Mélenchon agite un petit peu les ficelles de l'antisémitisme. Il y a derrière ça un sous-entendu raciste et islamophobe très clair, parce que c'est une reprise du discours selon lequel Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise en général, cherche à plaire à un électorat arabo-musulman. Et donc qui dit électorat arabo-musulman dit forcément antisémitisme. Et puis il y a cette image vraiment derrière qui n'est pas assumée, hein, qui n'est pas dite. Ils s'en défendraient d'avoir une telle lecture. Mais on retrouve ce discours-là derrière leurs accusations. Autre exemple, je parlais du collectif Golem, qui est né quelques semaines après le 7 octobre 2023. Il faut savoir que l'acte de naissance de ce collectif, ça a été de prôner la participation à une manifestation qui était organisée par le bloc au pouvoir, par la voix des deux présidents des deux chambres du Parlement, donc Mme Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et M. Larcher, donc les Républicains, président du Sénat. Une marche contre l'antisémitisme et pour la République. Et cette marche-là donc, se fonde sur un appel qui a été signé par ces deux présidents des chambres et qui est un appel effectivement largement islamophobe, qui reprend tous les poncifs de cette idée-là que le nouvel antisémitisme serait uniquement celui des... qui serait un produit d'importation hein, venu avec l'immigration arabo-musulmane, et qui invisibilise totalement ce qui était en train de se passer à l'époque déjà pour les Palestiniens. Donc, un appel qui était extrêmement problématique pour qui se situe du point de vue des luttes antiracistes. Et on pourrait s'attendre à ce que, pourquoi pas, voilà, il y avait tout un emballement autour de l'antisémitisme, mais il y avait effectivement un regain des actes antisémites. On pourrait se dire, on pourrait participer à cette manifestation, mais sur un appel un peu critique, en fait, de cette manifestation. Eh bien, non, pas du tout. Le seul aspect qu'ils ont critiqué de cette manifestation était la participation du Rassemblement national, de l'extrême droite, à cette manifestation. C'était leur mot d'ordre. Nous, on va dans cette manifestation parce qu'elle est légitime, mais on y va aussi pour dégager l'extrême droite de cette marche-là, qui est une marche contre l'antisémitisme, ce qui revenait à apporter toute une légitimité à cette marche-là, à cet appel-là, et aux forces politiques qui l'organisaient, qui, par ailleurs, sont des forces politiques racistes. C'est-à-dire qu'au même moment, à l'Assemblée nationale et au Sénat, on discutait de supprimer l'aide médicale d'État pour les personnes migrantes en France. Et c'était un projet porté notamment par Gérard Larcher, le président du Sénat. Les macronistes venaient de faire passer la loi asile-immigration, qui est une des pires lois racistes qui a été votée ces 10-20 dernières années. Donc dans ce contexte-là, ce collectif-là n'avait absolument rien à dire à ça. Donc une lecture très républicaniste, très républicaine, qui entendait recréer ce cordon sanitaire autour du Rassemblement national, mais du coup qui revenait à légitimer des formes de racisme respectables, voilà, et incarnées par la Macronie ou par la droite historique. Autre exemple de cette forme d'intégrationnisme finalement qui les caractérise, c'est leur incapacité à répondre à toutes les attaques islamophobes qu'il y a en ce moment en France. On a eu plusieurs scandales, plusieurs polémiques. La dernière en date est celle d'un humoriste, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, qui était qui a fait une chronique sur France 5, qui a eu le malheur d'avoir une barbe et un bonnet. Et l'extrême droite a fait toute une polémique parce que c'est pas possible de voir une barbe et un bonnet en France, parce que c'est du salafisme, etc. etc. Et deux, trois jours après, la ministre de la Culture a viré en fait cette personne-là et légitimement en fait ce fait-là de le jeter en pâture à l'extrême droite et de répondre du coup au diktat en fait de cette extrême droite-là. Et là, on n'a eu aucune réaction. Et c'est pareil pour les polémiques qu'il y a eu avant. Il n'y a eu aucune réaction de la part de ces militants, de ces collectifs-là, qui ne peuvent pas, enfin, qui n'arrivent pas à comprendre la nécessité de s'opposer fermement à toutes ces attaques-là, c'est-à-dire par exemple au fait que cet humoriste-là a été viré sur une base islamophobe parce qu'il aurait écrit des tweets qui pourraient paraître un petit peu sexistes, quand bien même ces tweets-là ont effectivement été tronqués et que c'est vraiment une polémique montée par l'extrême droite, mais il y a cette incapacité à voir le racisme là où il est et pour ce qu'il est. Quand des imams se font expulser de France parce qu'on va aller instrumentaliser un propos en le tournant pour qu'il apparaisse comme étant un propos antisémite, et il n'y aura aucune réaction de ces collectifs-là. Pourtant, c'est bien là que l'islamophobie se joue. C'est-à-dire quand on empêche des musulmans de prendre la parole pour dénoncer un génocide, pour dénoncer l'islamophobie d'État en France. Cette prise de parole-là, c'est là où se joue, je veux dire, l'islamophobie d'État. C'est quand on empêche une population de s'organiser, de prendre la parole collectivement, de construire une forme d'autonomie qui lui permette de faire face au racisme. C'est quand on s'en prend à des associations caritatives ou à des associations de soutien juridique aux victimes d'actes islamophobes, je pense au CCIF par exemple. Et bien, de ces nouveaux antiracistes-là, ben, il n'y aura aucun son de voix, ils ne seront pas là. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui caractérise cette forme d'intégrationnisme, en fait, que leur discours politique amène. C'est-à-dire que c'est une manière pour eux, il y a une adhésion, finalement, à ce discours républicaniste et à ce, enfin voilà, à ce discours républicaniste qui est vraiment le moteur de, du racisme d'État en France. Donc ça, c'est pour la partie gauche, qui ne sont pas grand-chose de gauche, en fait. Maintenant, il y a la partie du sionisme. À la différence des comment dire, des, ouais, donc dites hein, si je suis trop long, enfin, faut pas hésiter à enlever. À la différence des sionistes comme le CRIF, comme les autorités israéliennes, comme les voix les plus porteuses aujourd'hui dans le champ du sionisme, ce sont pas des gens qui vont assumer ouvertement le caractère suprémaciste, colonial, raciste de la situation en Palestine, de l'État d'Israël. Ce sont des gens qui n'auront pas assez de mots pour condamner les colons d'extrême droite en Cisjordanie. Ce sont des gens qui diront très facilement que Netanyahou est un fasciste, que sa politique est absolument horrible. En réalité, ce qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est de comprendre que le problème n'est pas que Netanyahou est d'extrême droite. Le problème, c'est le caractère structurellement raciste de l'État israélien, de ses institutions, de sa politique-là. Et que ce racisme-là, ce colonialisme-là, était tout autant présent avant Netanyahou et avant ce basculement de la société israélienne vers un suprémacisme affirmé, assumé, sans aucun frein. Mais que, dès le départ, il y a dans le sionisme, dans l'établissement de l'État d'Israël, un projet colonial d'accaparement des terres, de relégation de la population palestinienne, de son invisibilisation, de sa répression et de son meurtre, en fait, vraiment le meurtre de la population palestinienne et de son droit à la souveraineté. C'est des gens qui peuvent participer, comme ça a été le cas récemment, à des conférences avec des travaillistes israéliens, c'est-à-dire l'équivalent plus ou moins du Parti socialiste en Israël, qui est le parti qui, pendant les premières décennies d'existence de l'État d'Israël, a été le parti au pouvoir. C'est le parti qui a dirigé la Nakba, l'expulsion des 800 000 Israéliens. C'est le parti qui a installé, palestinien. C'est le parti qui a installé toutes les institutions qui aujourd'hui sont celles qui assurent la continuité de cette politique-là. C'est la personne avec qui ils étaient en conférence récemment, qui est le principal chef de file du parti travailliste israélien, Yair Golan. C'est quelqu'un qui, en octobre-novembre, disait avec les autorités israéliennes, il faut affamer la population de Gaza. Il n'y a aucun problème moral avec ça. D'accord ? Ça, c'est la gauche en Israël, qui, même si elle est très réduite aujourd'hui, qui tient ce discours-là. Donc c'est des gens, et c'est pour ça que nous, on les qualifie de sionistes de gauche, qui n'arrivent pas ou ne veulent pas rompre avec ce projet d'établir un État en Palestine qui soit fondé sur un monopole, qui est le monopole de droit à la circulation, à l'installation et à l'exercice de la souveraineté réservé aux judéo-israéliens. Ils ne veulent pas trancher avec ça, ils sont juste un peu moins gourmands que l'extrême droite israélienne, c'est-à-dire qu'ils veulent bien se contenter d'une partie de la Palestine et pas forcément de tout l'État. Mais leur cri du cœur, pour reprendre une citation d'une grande figure littéraire de la gauche israélienne, c'est « Aidez-nous à divorcer des Palestiniens. Aidez-nous à nous séparer d'eux pour qu'on en finisse enfin avec ce droit au retour des Palestiniens. » Parce que c'est bien ça l'enjeu. L'enjeu, il est de comprendre qui se positionne contre ou pour le droit au retour des Palestiniens, c'est-à-dire la reconnaissance du crime qui a été fait à leur encontre, la reconnaissance de leur expropriation et du coup de leur droit à réparation. C'est qui veut ou ne veut pas rompre avec un État fondé sur le suprémacisme juif. Et il est fondé dans sa constitution, dans sa loi fondamentale, au moins depuis 2018, sur ce suprémacisme-là, parce qu'en 2018, la Knesset, l'Assemblée israélienne, vote une loi fondamentale, l'équivalent de la constitution, qui dit que l'État d'Israël est l'État-nation du seul peuple juif. Qu'en Israël, le seul peuple qui a le droit à exercer une souveraineté nationale, c'est les Juifs. Parce qu'en Israël, la citoyenneté, la nationalité est différente. Vous pouvez avoir la citoyenneté israélienne, mais pas la nationalité si vous n'êtes pas juif. Donc, voilà l'angle mort en fait, du sioniste de gauche, leur refus de rompre avec, avec cet horizon-là, fait qu'ils ont énormément de mal aujourd'hui à se différencier, à dénoncer pour ce qu'il est, là, le génocide qui se passe actuellement à Gaza, la politique génocidaire israélienne, et qu'ils n'arrivent pas à se positionner parce qu'ils n'ont plus d'espace politique. Ils sont dans une situation où, sous l'effet du génocide, c'est très polarisé. On a d'un côté des colons, des personnes qui soutiennent ouvertement la politique coloniale israélienne, qui soutiennent ouvertement un projet politique qui se veut de plus en plus réellement fasciste, et des gens qui, du coup, assument une position anticoloniale beaucoup plus ferme. Entre ces deux pôles, ils n'ont plus beaucoup, finalement, d'espace. Donc voilà, pour brosser un petit peu le portrait politique de ce qu'on appelle les sionistes de gauche, il y a un enjeu très fort, c'est que, à gauche, dans nos espaces, dans nos organisations-là, on voit que c'est des lignes de clivage. La question de l'anticolonialisme, de l'anti-impérialisme, elle n'est pas totalement acquise à gauche. Et on le voit bien dans les débats depuis le 7 octobre, mais on le voit bien avant. Enfin, la question de l'islamophobie, par exemple, elle a quand même bien révélé les fractures jusqu'au sein d'une extrême gauche très extrême. Je parlais de la scène française, mais au sein de Lutte ouvrière, du NPA, voilà, de partis dont on pourrait peut-être s'attendre à ce qu'ils ne soient pas forcément hostiles par exemple, au fait qu'une candidate musulmane voilée puisse se présenter à des élections. On voit que ces questions-là, la question raciale, la question coloniale, ne sont pas totalement acquises et que c'est encore des lignes de clivage assez importantes. Eh bien, les sionistes de gauche, en venant véhiculer ce discours-là, en venant reprendre ce discours-là, qui est celui des conservateurs, d'instrumentalisation de la question de l'antisémitisme, d'accusation d'antisémitisme sur la gauche ou sur les luttes de l'immigration et les luttes antiracistes, eh bien, ça vient paralyser beaucoup de débats, ça vient freiner beaucoup de participation à des initiatives, ça vient ébranler le dynamisme qu'on devrait attendre de ces espaces-là, de ces parties-là, de ces organisations-là, et ça vient légitimer toute la machine répressive qui s'est mise en branle depuis le 7 octobre, où les procès pleuvent sur des militants, parfois sur des candidats à des élections, avec des condamnations qui tombent, toutes ces cabales médiatiques qui viennent exclure du débat public bon nombre de militants, toute cette machine-là, et ça vient la légitimer à partir de personnes qui parlent de l'intérieur de la gauche. Et donc là, il y a un enjeu vraiment politique très important à comprendre ce discours-là, à comprendre ces angles morts, et à le combattre pour plus qu'il alimente cette machine répressive.
Merci Simon. C'est en parlant, je me dis, je vous ai tous les deux en face, que j'ai envie de venir sur un passage du livre. Ça va. Je me permets, sur le rôle des Juifs à l'histoire ou la fin de l'innocence, en plus c'est cité, donc c'est pour ça que ça me vient. Nul n'est blanc innocemment. Vérité. Le sionisme, une dignité juive aliénée. On ne naît pas sioniste, on le devient. Ce que je lis, c'est du Hodiah, en fait. Et tous les ingrédients sont là pour le livre. Je me suis souvent posé la question, nous autres, indigènes, aurions-nous pu accepter l'offrande sioniste si on nous l'avait proposée? Compte tenu de ce que nous savons, depuis Fanon, des affects indigènes en matière d'aliénation, il n'est pas interdit de le croire. Je passe. La seule chose que je puisse dire de manière prosaïque, c'est que si nous n'y avons pas cédé, c'est que l'offre ne nous a pas été faite. Dès lors, l'adhésion à une idéologie occidentaliste et dominatrice comme le sionisme n'est pas un trait juif. C'est un trait de colonisé, un trait d'aliéné. Rien ne prédisposait les Juifs à adhérer massivement au sionisme. Ils y ont longtemps résisté. Ils ont même longtemps été les plus fervents anti-sionistes. Et ça, on l'a vu quand on a présenté l'ouvrage des éditions Silebs ici. Et donc, ça va être là. Quant aux juifs européens des classes laborieuses, il faut trouver l'explication à la fois dans une fine connaissance de la blanchité, ouvrez la parenthèse, comment faire confiance à ceux qui les avaient envoyés dans les camps de concentration et qui ne les ont jamais rétablis dans une pleine citoyenneté, fermez la parenthèse, mais aussi dans l'aliénation raciale, à savoir l'amour que tout opprimé éprouve pour son oppresseur. Le sionisme vient combler ce malaise existentiel. Prendre sa revanche sur l'histoire, devenir de super blanc tout en prétendant rester soi-même, ouvrez les guillemets, des vaincus avec des masques de vainqueurs, fermez les guillemets, en somme, selon l'expression de Simon Hassoun. Comment ? Et donc je voulais te demander, à toi, c'est quoi cette expression des masques de vaincus ? Avec les vainqueurs, avec le cours d'histoire. T'es historien, toi, David ?
Non, je suis pas du tout historien. je me souvenais plus exactement d'avoir dit ça, mais je peux assumer le propos.
Selon le 145, c'est un meeting.
Ouais.
Un
meeting
international.
International.
C'est des vaincus avec des masques des vainqueurs, c'est ça. Des vaincus.
Bah, de répondre à... Moi, ce que je trouve, et qu'on lit pas l'offre sioniste, déjà de parler de casser que c'est pas un essentialisme juif, en fait. L'offre sioniste aurait pu être offerte à n'importe qui. Donc ça, c'est des polias qui nous amènent à une réflexion. Et si on n'y a pas succombé, moi, je pense aussi, je crois qu'on aurait dit oui.
Effectivement, c'est assez facile à comprendre. Les Juifs sont des vaincus historiques de la modernité occidentale, c'est-à-dire de cette phase de l'histoire qui commence avec la construction des États-nations en Europe, qui se développe jusqu'à aujourd'hui et qui prend son point d'orgue du point de vue de l'histoire de l'antisémitisme en Europe, qui prend son point d'orgue avec la destruction des Juifs d'Europe, avec le génocide pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Juifs ont été l'élément intérieur contre lequel vont se construire les États-nations et l'identité européenne blanche. C'est quoi un Européen blanc ? C'est un Européen déjà qui n'est pas juif. Et c'était la première des choses parce que les Juifs étaient en Europe. Et il fallait se distinguer de cette population-là qui va être vue comme une population étrangère, surnuméraire, nuisible, pas désirable. Et qui va permettre de définir en contre une identité blanche, chrétienne, européenne. Et on est effectivement des grands vaincus de cette histoire-là, parce que cette histoire-là, pour les Juifs, a été une longue histoire de rejet, de stigmatisation, de haine, de violence, d'antisémitisme évidemment, de massacre en Europe de l'Est. On n'a pas eu de revanche sur cette histoire-là. C'est-à-dire qu'en 1939-1945, en 1945, après les déportations, après la fin de la guerre, il n'y a pas eu de réparation, il n'y a pas eu de... Vous savez, pendant des décennies, on ne devait pas parler de ça. On ne pouvait pas dire ce qui s'était passé en Europe, en tout cas en France. Parce que toute la France avait été résistante et aucun autre discours n'était audible à ce moment-là. Et puis, aucun autre discours était audible. Et pour les Juifs, c'était difficile de dire ce qui s'était passé, parce que c'est un traumatisme tel qu'il n'était pas possible, en fait, de le dire tout de suite. Donc c'est venu bien après. Tout le travail de mémoire, ça a été un discours, ça a été déjà le fruit d'une lutte pour lutter pour cette mémoire-là, c'est venu bien après. Par contre, ce que propose le sionisme aux Juifs, finalement, c'est cette possibilité... C'est cette possibilité de rejoindre le concert des nations, d'avoir une forme de dignité en devenant colon en Palestine, c'est-à-dire en ayant la possibilité de construire leur propre État-nation sur le modèle occidental en Palestine. C'est à cette condition-là finalement, qu'on a permis aux Juifs de retrouver une certaine place dans ce concert des nations. Donc c'est le sens de cette phrase, des vainqueurs, des vaincus avec des masques de vainqueurs, c'est un petit peu celui-là, c'est-à-dire c'est de retrouver une forme de dignité qui permet de dire on n'est pas des victimes et on ne sera plus des victimes parce qu'aujourd'hui on est fort, parce qu'aujourd'hui on a un État, on a une armée qui est puissante, on a un État qui est performant, on a un État qui ne baisse pas la tête, dont on peut être fier des accomplissements de son armée, dont on peut être fier du niveau de sa médecine, du niveau de son secteur, de la tech, par exemple. Toutes ces choses-là, ça vient nourrir quand on est juif. En tout cas, moi, c'est mon expérience quand on est juif, quand on est né dans les années 90, je prends mon exemple, qu'on doit faire face à toute cette histoire d'oppression, à toute l'histoire de la Shoah. Ça nous permet de... Ça vient répondre à une quête de dignité. Et moi, je crois que ce qui fait que le sionisme marche, en fait, dans une part non négligeable de la population juive, c'est que ça vient répondre à cet affect-là. Qui, en fait, aujourd'hui, qui a envie d'être une victime? Qui a envie de ne pouvoir se définir que par rapport à une histoire dont il a été victime? Je pense personne. Et le sionisme vient répondre à ça. Vient répondre aux juifs en leur disant, mais vous avez une terre, vous avez droit à un État, vous avez le droit d'être fort, vous avez le droit de ne plus baisser la tête. Et tout le tragique de cette situation, évidemment, c'est que la condition de possibilité de ce débouché-là, de cette forme de dignité-là, c'est la colonisation d'un autre peuple. C'est l'oppression du peuple palestinien. Parce que les conditions matérielles qui fondent la possibilité d'un État israélien aujourd'hui, c'est bien l'accaparement des terres palestiniennes, la relégation de sa population et la répression constante de la population palestinienne. Et ce qui est absolument tragique, c'est cette équation qui dit que pour être libre, pour pouvoir avoir une forme de dignité, les Juifs doivent opprimer les Palestiniens. Et c'est ça qui est absolument terrible dans la situation. Donc voilà ce que peuvent vouloir dire des vaincus avec un masque de vainqueur, si tu veux compléter ce que... Voilà, sur cette partie.
C'est bien.